Curiosité.net, le guide de Maupassant, Rosalie Prudent. Illustration musicale, Franz Schubert Sonata, licence Muse Open. Lue par Alain Bernard. Il y avait vraiment dans cette affaire un mystère que ni les jurés, ni le président, ni le procureur de la République lui-même ne parvenaient à comprendre. La fille, Prudent, Rosalie, bonne chez les époux Varambeau, de Mantes, devenue grosse à l'insu de ses maîtres, avait accouché pendant la nuit dans sa mansarde, puis tué et enterré son enfant dans le jardin. C'était là l'histoire courante de tous les infanticides accomplis par les servantes. Mais un fait demeurait inexplicable. La perquisition opérée dans la chambre de la fille, Prudent, avait amené la découverte d'un trousseau complet d'enfants fait par Rosalie elle-même qui avait passé ses nuits à le couper et à le coudre pendant 3 mois. L'épicier, chez qui elle avait acheté de la chandelle, payée sur ses gages pour ce long travail, était venu témoigner. De plus, il demeurait acquis que la sage-femme du pays, prévenue par elle de son état, lui avait donné tous les renseignements et tous les conseils pratiques pour le cas où l'accident arriverait dans un moment où les secours demeureraient impossibles. Elle avait cherché en outre une place à Poissy pour la fille Prudent qui prévoyait son renvoi, car les époux Varambeau ne plaisantaient pas sur la morale. Ils étaient là, assistant aux assises, l'homme et la femme, petits rentiers de province, exaspérés contre cette traînée qui avait souillé leur maison. Ils auraient voulu l'avoir guillotinée, tout de suite, sans jugement, et ils l'accablaient de dépositions et haineuses, devenues dans leur bouche des accusations. La coupable, une belle grande fille de Basse-Normandie, assez instruite pour son état, pleurait sans cesse et ne répondait rien. On en était réduit à croire qu'elle avait accompli cet acte barbare dans un moment de désespoir et de folie, puisque tout indiquait qu'elle avait espéré garder et élever son fils. Le président essaya encore une fois de la faire parler, d'obtenir des aveux, et l'ayant sollicité avec une grande douceur, lui fit enfin comprendre que tous ces hommes réunis pour la justice ne voulaient point sa mort et pouvaient même la plaindre. Alors elle se décida. Il demandait : Voyons, dites-nous d'abord quel est le père de cet enfant. Jusque-là, elle l'avait caché obstinément. Elle répondit soudain, regardant ses maîtres qui venaient de la calomnier avec rage : C'est monsieur Joseph, le neveu de monsieur Varambeau. Les deux époux eurent un sursaut et crièrent en même temps : C'est faux, elle ment, c'est une infamie. Le président les fit taire et reprit : Continuez, je vous prie, et dites-nous comment cela est arrivé. » Alors elle se mit brusquement à parler, avec abondance, soulageant son cœur fermé, son pauvre cœur solitaire et broyé, vidant son chagrin, tout son chagrin maintenant, devant ces hommes sévères qu'elle avait pris jusque-là pour des ennemis et des juges inflexibles. « Oui, c'est M. Joseph Varambeau, quand il est venu en congé l'an dernier. Qu'est-ce qu'il fait, M. Joseph Varambeau ? Et il est sous-officier d'artilleur, monsieur, donc il resta 2 mois à la maison, 2 mois d'été. Moi, je ne pensais à rien quand il s'est mis à me regarder, et puis à me dire des flatteries, et puis à me cajoler tant que le jour durait. Moi, je me suis laissé prendre, monsieur. Il me répétait que j'étais belle fille, que j'étais plaisante, que j'étais de son goût. Mais il me plaisait, pour sûr. Que voulez-vous ? On écoute ces choses-là quand on est seul, toute seule, comme moi. Je suis seul sur la terre, monsieur. Je n'ai personne à qui parler, personne à qui conter mes ennuyances. Je n'ai plus de père, plus de mère, ni frère, ni sœur, personne. Ça m'a fait comme un frère qui serait revenu quand il s'est mis à me causer. Et puis, il m'a demandé de descendre au bord de la rivière un soir pour bavarder sans faire de bruit. J'y suis venu, moi. Je sais-t-il ? Je sais-t-il après ? Il me tenait la taille, pour sûr. Je ne voulais pas. Non, non, je n'ai pas pu. J'avais envie de pleurer tant que l'air était doux et faisait clair de lune. Je n'ai pas. Non, je n'ai pas pu. Il a fait ce qu'il a voulu. Ça a duré encore 3 semaines, tant qu'il est resté. Je l'aurais suivi au bout du monde. Il est parti. Je ne savais pas que j'étais grosse, moi. Je ne l'ai su que le mois d'après. Et elle se mit à pleurer, si fort qu'on dut lui laisser le temps de se remettre. Puis le président reprit, sur un ton de prêtre confessionnal, « Voyons, continuez. » Elle recommença à parler. « Quand j'ai vu que j'étais grosse, j'ai prévenu Madame Boudin, la sage-femme qu'elle a pour le dire. Et j'y ai demandé la manière pour le cas où ça arriverait sans elle. Et puis j'ai fait mon trousseau, nuit à nuit, jusqu'à 1 heure du matin, chaque soir. Et puis j'ai cherché une autre place, quand je savais bien que je serais renvoyé. Mais je voulais rester jusqu'au bout dans la maison, pour économiser des sous, vu que je n'en ai guère, et qu'il m'en faudrait pour le petit. » « Alors vous ne voulez pas le tuer ?»« Oh, pour sûr, non, monsieur. »« Pourquoi l'avez-vous tué, alors ?»« V'là la chose. »« C'est arrivé plus tôt que je n'aurais cru. »« Ça m'a pris dans ma cuisine, comme je finissais ma vaisselle. »« Monsieur et Madame Varambeau dormaient déjà, donc je monte, pas sans peine en me tirant à la rampe, »« et je me couche par terre, sur le carreau, pour ne point gâter mon lit. »« Ça a duré peut-être 1 heure, peut-être 2, peut-être 3, je ne sais point, tant ça me faisait mal. » Et puis, je le poussais de toute ma force, j'ai senti qu'il sortait et je l'ai ramassé. Ah oui, j'étais contente, pour sûr. J'ai fait tout ce que m'avait dit Madame Boudin, tout. Et puis, je l'ai mis sur mon lit, lui. Et puis, voilà qu'il me revient une douleur, mais une douleur à mourir. Si vous connaissiez ça, vous autres, vous n'en feriez pas tant. Allez, j'en ai tombé sur les genoux, puis sur le dos, par terre, et voilà que ça me reprend. Peut-être 1 heure encore, peut-être 2, là, toute seule, et puis... qu'il en sort un autre. Un autre petit. Deux, oui, deux, comme ça. Je l'ai pris comme le premier. Et puis, je l'ai mis sur le lit, côte à côte, deux. Est-ce possible, dites, 2 enfants. Moi qui gagne 20 francs par mois. Dites, est-ce possible? Un oui, ça se peut, en se privant, mais pas 2. Ça m'a tourné la tête. Est-ce que je sais, moi, je pouvais-il choisir, dites? Est-ce que je sais? Je me suis vu à la fin de mes jours. J'ai mis l'oreiller dessus, sans savoir, je ne pouvais pas en garder 2. Et je me suis couché dessus encore. Et puis, je suis resté à me rouler et à pleurer jusqu'au jour que je les ai vus venir par la fenêtre. Et ils étaient morts sous l'oreiller, pour sûr. Alors, je les ai pris sous mon bras, j'ai descendu l'escalier et sorti dans le potager. J'ai pris la bêche au jardinier et je les ai enfouis sous terre, le plus profond que j'ai pu. Un ici, et puis l'autre là, pas ensemble. Pour qu'ils ne parlent pas de leur mère, si ça parle, les petits morts, sait-il, moi. Et puis, dans mon lit, voilà que j'étais si mal que j'ai pas pu me lever. On a fait venir le médecin, qui a tout compris. C'est la vérité, monsieur le juge. Faites ce qu'il vous plaira, je suis prête. La moitié des jurés se mouchaient, coup sur coup, pour ne point pleurer. Des femmes sanglotaient de l'assistance. Le président interrogea. À quel endroit avez-vous enterré l'autre? Elle demanda lequel que vous avez, mais celui qui était dans les artichauts. Ah bien, l'autre est dans les fraisiers, au bord du puits. Et elle se mit à sangloter si fort qu'elle gémissait à fendre les cœurs. La fille Rosalie Prudent fut acquittée. Guy de Maupassant. Sauvée. Première partie. Elle entra comme une balle qui crève une vitre, la petite marquise de Renaudon. Et elle se mit à rire avant de parler, à rire aux larmes, comme elle avait fait un mois plus tôt, en annonçant à son amie qu'elle avait trompé le marquis pour se venger, rien que pour se venger, et rien qu'une fois, parce qu'il était vraiment trop bête et trop jaloux. La petite baronne de Grangerie avait jeté sur son canapé le livre qu'elle lisait, et elle regardait Annette avec curiosité, riant déjà elle-même. Enfin elle demanda. « Qu'est-ce que tu as encore fait ?»« Oh, ma chère, C'est trop drôle, trop drôle. Figure-toi, je suis sauvé, sauvé, sauvé.
Comment sauvé ?
Oui, sauvé.
De quoi ?
De mon mari, ma chère. Sauvé, délivré. Libre, libre, libre.
Comment libre ? En quoi ?
En quoi ? Le divorce ? Oui, le divorce. Je tiens le divorce.
Tu es divorcé ?
Non, pas encore. Que tu es sotte. On ne divorce pas en 3 heures. Mais j'ai des preuves. Des preuves. Des preuves qu'il me trompe. Un flagrant délit. Songe. Un flagrant délit. Je le tiens.
Oh, dis-moi ça. Alors il te trompait ?
Oui. C'est-à-dire non. Oui et non. Je ne sais pas. Enfin, j'ai des preuves. C'est l'essentiel.
Comment as-tu fait ?
Comment j'ai fait ? Voilà. Oh, j'ai été forte. Rudement forte. Depuis 3 mois, il était devenu odieux. Tout à fait odieux. Brutal, grossier, despote. Ignoble, enfin. Je me suis dit, ça ne peut pas durer. Il me faut le divorce.
Mais comment ?
Ça n'était pas facile. J'ai essayé de me faire battre par lui.
Il n'a pas voulu. Il me contrariait du matin au soir, me forçait à sortir quand je ne voulais pas, à rester chez moi quand je désirais dîner en ville, et il me rendait la vie insupportable d'un bout à l'autre de la semaine. Mais il ne me battait pas.
Alors j'ai tâché de savoir s'il avait une maîtresse. Oui, il en avait une, mais il prenait 1000 précautions pour aller chez elle. Ils étaient imprenables ensemble.
Alors devine ce que j'ai fait. Je ne devine pas. Oh, tu ne devineras jamais.
J'ai prié mon frère de me procurer une photographie de cette fille.
De la maîtresse de ton mari ?
Oui.
Ça a coûté 15 louis à Jacques, le prix d'un soir de 7 heures à minuit, dîner compris, 3 louis l'heure. Il a obtenu la photographie par-dessus le marché. Il me semble qu'il aurait pu la voir à moins en usant d'une ruse quelconque et sans être obligé de prendre en même temps l'original.
Oh, elle est jolie. Ça ne déplaisait pas à Jacques.
Et puis moi, j'avais besoin de détails physiques, sur sa taille, sur sa poitrine, sur son teint, sur 1000 choses, enfin.
Je ne comprends pas. Tu vas voir, quand j'ai connu tout ce que je voulais savoir, je me suis rendu chez un homme d'affaires. Tu sais, de ces hommes qui font des affaires de toute nature, des agents de publicité, de complicité, de ces hommes, enfin, tu comprends ?
Oui, à peu près. Et tu lui as dit ?
Je lui ai dit, en lui montrant la photographie de Clarisse. Elle s'appelle Clarisse.
Monsieur,
il me faut une femme de chambre qui ressemble à ça.
Je la veux jolie, élégante, fine, propre. Je la paierai ce qu'il faudra. Si ça me coûte 10 000 francs, tant pis. Je n'en aurai pas besoin plus de 3 mois. Il avait l'air très étonné, cet homme. Il demanda, madame la veut-elle irréprochable ?
Je rougis, je balbutiais. Mais oui, comme probité.
Il reprit, et comme mœurs.
Je n'osais pas répondre. Je fis seulement un signe de tête qui voulait dire non.
Puis tout à coup, je compris qu'il avait un horrible soupçon et je m'écriai, perdant l'esprit. Oh, monsieur, c'est pour ma mari
qui me trompe en ville. Et je veux qu'il me trompe chez moi. Vous comprenez ? Pour le surprendre.
Alors l'homme se mit à rire. Et je compris à son regard qu'il m'avait rendu son estime.
Et il me trouvait même très forte. J'aurais bien parié qu'à ce moment-là, il avait envie de me serrer la main.
Il me dit, « Dans 8 jours, madame, j'aurai votre affaire, et nous changerons de sujet s'il le faut. »
Je réponds du succès. « Vous ne me paierez qu'après réussite. » Ainsi, cette photographie représente la maîtresse de monsieur votre mari.
« Oui, monsieur. » « Une belle personne. » « Une fausse maigre. » « Et quel parfum ?»
Je ne comprenais pas. Je répétais,
comment, quel parfum ?
Il sourit, oui, madame, le parfum est essentiel pour séduire un homme, car cela lui donne des ressouvenirs inconscients qui le disposent à l'action. Le parfum établit des confusions obscures dans son esprit, le trouble et l'énerve en lui rappelant ses plaisirs. Il faudrait tâcher de savoir aussi ce que monsieur votre mari a l'habitude de manger quand il dîne avec cette dame. Vous pourriez lui servir les mêmes plats le soir, ou vous le pincerez.
Oh, nous le tenons, madame, nous le tenons.
Je m'en allais enchanté. J'étais tombé là vraiment sur un homme très intelligent. Deuxième partie.
Trois jours plus tard, je vis arriver chez moi une grande fille, brune, très belle, avec l'air modeste et hardi en même temps, un singulier air de rouée. Elle fut très convenable avec moi. Comme je ne savais trop qui c'était, je l'appelai mademoiselle. Alors elle me dit « Oh, madame peut m'appeler Rose, tout court. » Nous commençâmes à causer. « Eh bien, Rose, vous savez pourquoi vous venez ici ?»«
Je m'en doute, madame. »«
Fort bien, ma fille. » Cela ne vous ennuie pas trop?
Oh, madame, c'est le 8e divorce que je fais. J'y suis habitué.
Alors, parfait. Vous faut-il longtemps pour réussir?
Oh, madame, ça dépend tout à fait du tempérament de monsieur.
Quand j'aurai vu monsieur 5 minutes, en tête à tête, je pourrai répondre exactement, madame.
Vous le verrez tout à l'heure, mon enfant.
Mais je vous préviens qu'il n'est pas beau.
Cela ne me fait rien, madame.
J'en ai séparé déjà de très laid.
Mais je demanderai à madame si elle s'est informée du parfum.
Oui, ma bonne Rose.
La verveine.
Tant mieux, madame. J'aime beaucoup cette odeur-là.
Madame peut-elle me dire aussi si la maîtresse de monsieur porte du linge de soie?
Non, mon enfant.
De la batiste avec dentelle.
Oh, alors c'est une personne comme il faut. Le linge de soie commence à devenir commun.
C'est très vrai ce que vous dites là.
Eh bien, madame, je vais prendre mon service.
Elle prit son service, en effet. Immédiatement,
comme si elle n'eût fait que cela toute sa vie.
Une heure plus tard, mon mari rentrait.
Rose ne leva même pas les yeux sur lui.
Mais il leva les yeux sur elle, lui.
Elle sentait déjà la verveine à plein nez. Au bout de 5 minutes, elle sortit. Il me demanda aussitôt.
« Qu'est-ce que c'est que cette fille-là ? » ?»«
Mais ma nouvelle femme de chambre. »«
Où l'avez-vous trouvée ? » ?»«
C'est la baronne de Grangerie qui me l'a donnée avec les meilleurs renseignements. »«
Ah ! » Est assez jolie.
Vous trouvez?
Mais oui, pour une femme de chambre.
J'étais ravi. Je sentais qu'il mordait déjà. Le soir même, Rose me disait, je puis maintenant promettre à madame que ça ne durera pas 15 jours. Monsieur est très facile.
Ah, vous avez déjà essayé?
Non, madame, mais ça se voit au premier coup d'œil. Il a déjà envie de m'embrasser en passant à côté de moi.
Il ne vous a rien dit?
Non, madame, il m'a seulement demandé mon nom pour entendre le son de ma voix.
Très bien, ma bonne Rose.
Allez le plus vite que vous pourrez. Que madame ne craigne rien. Je ne résisterai que le temps nécessaire pour ne pas me déprécier. Au bout de 8 jours, mon mari ne sortait presque plus. Je le voyais rôder toute l'après-midi par la maison. Et ce qu'il y avait de plus significatif dans son affaire, c'est qu'il ne m'empêchait plus de sortir. Et moi, j'étais dehors toute la journée pour le laisser libre. Le 9e jour, comme Rose me déshabillait, elle me dit d'un air timide.
« C'est fait, madame. De ce matin. »
Je fus un peu surprise. Un rien ému, même. Non de la chose, mais plutôt de la manière dont elle me l'avait dite. Je balbutiai. Et ça s'est bien passé?
Oh, très bien, madame. Depuis 3 jours déjà, il me pressait. Mais je ne voulais pas aller trop vite.
Madame me préviendra du moment où elle désire le flagrant délit.
Oui, ma fille, tenez, prenons jeudi.
Va pour jeudi, madame. Je n'accorderai plus rien jusque-là pour tenir monsieur en éveil.
Vous êtes sûre de ne pas manquer?
Oh oui, madame, très sûre. Je vais allumer monsieur dans les grands prix de façon à le faire se donner juste à l'heure que madame voudra bien me désigner.
Pendant 5 heures, ma bonne Rose.
Ça va pour 5 heures, madame.
Et à quel endroit?
Mais dans ma chambre.
Soit dans la chambre de madame.
Alors, ma chérie, tu comprends ce que j'ai fait. J'ai été chercher papa et maman d'abord, et puis mon oncle d'Orvelin, le président, et puis monsieur Rappelé, le juge, l'ami de mon mari. Je ne les ai pas prévenus de ce que j'allais leur montrer. Je les ai fait entrer tous, sur la pointe des pieds, jusqu'à la porte de ma chambre. J'ai attendu 5 heures.
5 heures juste.
Oh, comme mon cœur battait. J'avais fait monter aussi le concierge, pour avoir un témoin de plus. Et puis, au moment où la pendule commence à sonner, pan! J'ouvre la porte toute grande.
Ah ah, ça y était en plein.
En plein, ma chère.
Oh, quelle tête! Quelle tête!
Si tu avais vu sa tête!
Et il s'est retourné, l'imbécile.
Ah, qu'il était drôle! Je riais.
Et papa qui s'est fâché, qui voulait battre mon mari.
Et le concierge, mon serviteur, qui l'aidait à se rhabiller, devant nous.
Il boutonnait ses bretelles que c'était farce.
Quant à Rose, parfaite, absolument parfaite. Elle pleurait.
Elle pleurait très bien.
C'est une fille précieuse. Si tu en as jamais besoin, n'oublie pas. Et me voici, je suis venu tout de suite te raconter la chose. Tout de suite. Je suis libre. Vive le divorce. »
Et elle se mit à danser au milieu du salon, tandis que la petite baronne, songeuse et contrariée, murmurait: «
Pourquoi ne m'as-tu pas invité à voir ça ?